All right, bon mardi tout le monde, c'est nuageux pour aujourd'hui, c'est de la pluie aujourd'hui et ce soir, c'est ce qu'on nous mentionne, 5 mm pour ce soir, le retour du beau temps pour la grande région de Québec, ce serait prévu pour jeudi, donc pour ce qui est de demain, ce sera encore une fois de la pluie, maximum de 6, jeudi ciel dégagé, maximum de 7 degrés, et vendredi des nuages avec un maximum de 11, on lâche pas, s'il se passe quoi que ce soit sur la route les amis, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021, merci d'être nos yeux, nos oreilles, j'ai les commentaires aussi, ça fonctionne par texto. Les prochaines secondes ou les prochaines minutes, Pascal, je me gâte.
Fait longtemps que tu voulais l'avoir. Hein?
Moi, je suis un auditeur de radio qui trippe sur les grosses voix graves et quand j'entendais, bon, ça le rajeunira pas, là, mais quand j'entendais cet homme-là sur les ondes de radio, chaque fois je me disais, un jour j'espère avoir sa voix de radio, c'est Jean-François Dumas d'Influence Communication. Salut Jean-François.
Salut, ça va bien vous autres?
Ben oui, ça va bien. T'es à la tête d'Influence Communication depuis combien d'années, Jean-François?
Ça fait de... ça va faire 24 ans à l'automne. Hey. Et donc, je veux dire, moi, j'ai parti ça en 2001. Je savais pas que c'était impossible et que ça pouvait pas marcher. Personne me l'a dit. Fait que je l'ai fait et ça a marché. Alors, et j'ai fait de la radio pendant bien des années, mais comme bien du monde, à un moment donné, tu réalises que il y avait plein de gens qui avaient plus de talent que moi pour continuer de faire de la radio, mais comme les médias me passionnaient, j'ai décidé de partir une business en marge des médias, donc qui analyse. À défaut de pouvoir travailler dans les médias, je me suis dit, je vais au moins pouvoir observer, analyser et critiquer le travail des médias, et c'est ce que j'ai fait.
Mais depuis 2020, depuis 2000, que tu es chez Influence Communication, tu as parti cette belle entreprise-là. Fait que tu as connu les mauvaises années du Canadien de Montréal comme moi. Là. Ce qui arrive là actuellement, c'est du bonbon pour les fans du Canadien avec Demi Dove qui arrive, là, qui marque l'histoire. Là. Son premier match décide un but, une passe. Le jeune de 19 ans, on le voit déjà comme une superstar. Tout le monde en parle à la grandeur du Canada. Je sais pas si on en a parlé aux États-Unis, mais on a écrit des journaux, là.
Ah oui, oui, écoute, ça a passé la gratte partout. Abondamment, on a accordé, évidemment, depuis hier, beaucoup, beaucoup d'espace à la performance de Demi Dove, pas mal moins à celle du Canadien. Mais ce qui est fascinant, c'est que, écoute bien ça, lorsqu'on a appris qu'il avait signé un contrat qui avait d'abord été libéré de son équipe à Saint-Pétersbourg, le SKA, et que le Canadien l'avait signé, dans les 48 heures qui ont suivi cette annonce-là, juste au Québec, pas en Amérique du Nord ou partout dans le monde, juste au Québec, pendant 48 heures, sur le web et dans les journaux, on a publié le 411 articles. Ça, c'est l'équivalent. C'est comme si on pouvait, comme si on voulait remplir le Journal de Québec d'un couvert à l'autre pendant 7 jours. Donc, on rentre. C'est 411 articles. Ça, c'est juste les journaux et le web. À ça, tu ajoutes la radio-télé. On a répété le nom de Demi Dove pendant 48 heures, 720 fois. Et si on prend tout ça, on met ça sur un Blu-ray USB, appelle-le comme tu veux, on pourrait, toi et moi, s'installer avec un gros plat de popcorn et réécouter toutes les mentions du nom de Demi Dove 24 heures par jour, pas 24 heures, sans arrêt, pendant 17 heures.
Puis à ton souvenir, à Montréal, c'est pas arrivé souvent, là, ce genre d'événement-là.
Ça me fait penser, je te dirais, en termes de volume, d'intensité de couverture, quand on pense au sport, une des plus grosses nouvelles du Canadien depuis 20 ans, ça a été le décès de Jean Béliveau. Le décès de Guy Lafleur est comparable à ça. Donc, c'est des grosses, grosses, grosses nouvelles. Le Canadien, c'est une machine à éclipse médiatique. Puis nous, dans ce temps-là, on se vire de bord, puis on le fait systématiquement. On appelle nos clients, puis on dit « Hey! » It's a good day for bad news. Si tu veux annoncer des mauvaises nouvelles, c'est le temps aujourd'hui parce que les médias, ils n'en parleront pas.
Est-ce
c'est
qu'il
un
y a,
petit peu
y a,
ça qui est arrivé.
Y adhères-tu à ça? Parce que nous, on en parle en riant, en disant, bon, en politique, s'il y a un événement ou une nouvelle loi ou quelque chose qui se passe, annoncez-le aujourd'hui. On en rit en onde. Mais est-ce que vos clients chez Influence Communication s'agrippent à ça?
Ben, c'est à ça qui sert, Jeff.
Ben, écoute, même sous la torture, je dirais pas qu'il l'a fait. mais je te dis que oui, il y a des clients qui le font. À chaque fois, il y en a qui le font. Ça peut être des grosses nouvelles, des petites, des moyennes nouvelles.
Si je te fais des
beaux
yeux...
On essaie de camoufler la médiatisation, de minimiser le plus possible la médiatisation parce qu'on se cache derrière une grosse nouvelle. Et les gens qui disent que c'est pas honnête de faire ça, c'est du grand n'importe quoi parce que le journal La Presse, le journal Le Soleil, le journal Le Québec, peu importe, Un quotidien qui a une grosse nouvelle en plein milieu de la semaine de la construction brûlera pas sa nouvelle si c'est un peu intemporel. Ils vont se dire, on va attendre une couple de jours que les gens reviennent. On ne scrapera pas une nouvelle en plein milieu de nulle part parce qu'on a la nouvelle, il faut la sortir. Donc, de savoir jouer avec le trafic d'informations puis de pouvoir s'adapter à la périodicité, s'adapter au moment où quand ça arrive dans l'année, c'est de comprendre comment ça marche les médias. Donc, les gens qui communiquent ne sont pas plus menteurs ou crosseurs que les médias, c'est juste de savoir comment ça marche. Mais nous, comme citoyens, c'est également important de savoir que ça existe et que c'est comme ça que ça fonctionne.
Est-ce que c'est toi qui envoies le signal à tes clients comme quoi c'est une belle journée pour annoncer une bonne nouvelle et c'est une belle journée pour annoncer une très mauvaise nouvelle?
C'est, oui, ben, généralement, c'est l'équipe de service clientèle chez nous qui communique. On a comme à nous à l'interne, on dit, OK, on appelle nos clients, c'est un bon moment. C'est comme les courtiers immobiliers qui disent c'est le temps, vends tes actions. Bon, ben là, c'est le temps aujourd'hui, vends ta nouvelle, personne ne va en parler. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va de l'avant et on communique directement avec les clients qu'on pense pour qui ça pourrait être utile. Et ça marche. La plupart, ben, beaucoup de clients à chaque fois à peu près utilisent ce genre de méthode-là parce que on veut réduire des emplois, on veut annoncer une nouvelle qui va être un peu impopulaire. Le gouvernement peut faire des annonces, des nominations impopulaires. Tu sais, quand le gouvernement fait des annonces, il veut nommer quelqu'un qui va être un peu, qui sera pas très, très, très populaire. Et qu'on annonce ça à la veille du temps des fêtes, près de Noël, parce qu'on sait qu'à rendu après les fêtes, il n'y a plus personne qui va vouloir en parler. Même les gens vont l'avoir oublié. Donc, ce genre d'approche-là, c'est payant et c'est comme ça que ça fonctionne.
Avec ton entreprise Influence Communication, es-tu capable de mesurer une campagne publicitaire? Exemple, là, ce qui pogne bien gros ces temps-ci, c'est le fameux Mike Sherona, là. Tu sais, la
Oui.
fameuse toune Mike Sherona. Désolé pour les gens qui vont l'avoir dans la tête pour les prochaines heures. Mais est-ce que tu es capable de prendre toutes les fois où cette campagne publicitaire-là, ben, cette publicité-là a passé, puis dire aux gens, voici votre impact, t'sais. À toutes les fois qu'on a parlé de ça à la radio, parce que je sais que nous, ici à la station, cette fameuse campagne-là, on en a jasé. Puis en plus, on a invité le chanteur qui est dans la publicité
Ah oh, oui,
qui
c'est un
chante
gars
cette
de
toune-là.
Québec,
oui,
ouais,
Daniel.
Toi, tu es
Ah
capable,
oui.
avec tes outils, puis avec tes
Oui.
auditeurs, tu es capable de mesurer la force d'une campagne.
Oui, je te dirais aussi, par exemple, mettons que Pascal et toi, vous vous poursuivez, puis vous dites des niaiseries en ondes, puis là, on veut évaluer combien ça vaut la diffamation que tu as fait sur Pascal. Et donc, on est capable, nous, d'évaluer en termes d'équivalence publicitaire, par exemple, combien ça vaudrait. On n'a jamais été mandaté pour faire le genre de job dont tu me parles pour Rona, mais on a déjà fait des analyses un peu flyées. Par exemple, à un moment donné, on a analysé les journées où on sacque le plus à la radio. Là,
Ah oui?
puis là, je me... Ben oui, l'heure,
Il
la
doit y avoir un
journée.
peu de politique là-dedans, là.
Je te dirais, si je me souviens bien, oui, il y avait de la politique, puis je pense que le jeudi, c'était une des pires journées, et la région de Québec était une des journées. Puis là, sacré, là, c'est pas juste des gros sacs, ça peut être des locutions t'sais, genre de quelqu'un qui va prendre un sac, mais qui va en faire un verbe, qui va construire une phrase autour de ça. Des fois, ça peut être juste des Moses puis des maudits. On a pris toutes les interjections, puis tous les sacs possibles, les petits, les moyens, les gros. Et on a fait une analyse pour déterminer, juste pour le fun, c'était quoi les journées où on sacrait le plus, c'était quoi l'heure de la journée, c'était en après-midi où on sacre le plus. Je pense que c'était le jeudi, si ma mémoire est bonne.
Les
J'ai
gens
même
sont
oublié.
fatigués de leur semaine, la fin de la journée, puis surtout les équipes du
Oui.
retour. Donc, on va mettre ça sur le dos à Denis Gravel. Mais pour la diffamation, je retiens vos services disponibles si jamais.
Mais peut-être
OK,
le
je vais
jeudi
t'aider pas
aussi.
cher.
Ouais, peut-être le jeudi, c'est parce que les animateurs de radio à Québec sont payés aux 2 semaines. Fait que c'est, t'as peut-être pogné les jeudis où on n'avait pas
J'ai
notre
peut-être
paye. Ah.
pogné en mauvaise semaine.
C'est ça, c'est ça. Hey, tu suis très attentivement avec ton entreprise les politiciens, les partis politiques. La
Ouais.
campagne politique, tu n'as pas le choix de la suivre aussi. Est-ce qu'il y a des chiffres qui t'impressionnent dans cette campagne politique-là, que ce soit au fédéral ou encore même ce qui s'est passé avec Donald Trump l'autre bord? Là, tu regardes ça pas mal?
Ben, c'est sûr que oui, d'abord, oui, on suit ça de très près parce que ça, d'abord, c'est intéressant, mais aussi parce que ça fait tellement, c'est une énorme éclipse médiatique, la campagne électorale, et ça fait ombrage à tout le reste. Alors, c'est sûr qu'on y accorde beaucoup d'attention. Ce qui me frappe, ce qui me déçoit, m'étonne et ce qui détonne beaucoup de plus en plus à chaque campagne, c'est que c'est de moins, ce sont de moins en moins des campagnes de candidats. On n'en parle plus des candidats. Si tu es un candidat dans le coin de Limoilou, il va falloir que tu travailles fort pour être dans le Kodak. Et juste pour rappeler aux gens qu'essentiellement, la politique, on vit ça par procuration à travers vous autres, les médias. Parce que moi, le premier, je rencontre à peu près jamais de candidats chez nous. Ils viennent jamais sonner à la porte quand je suis là. Fait que je les vois jamais. Tout ce que je vois de la politique, c'est ce qu'il y a à la télé, à la radio, dans les journaux, sur le web. Et malheureusement, les grands médias, pour deux raisons. D'abord, par paresse, et aussi parce que dans les régions, il y a de moins en moins de médias, il y a de moins en moins de journalistes, il y a de moins en moins de représentativité médiatique. Donc, l'ensemble des régions au Québec depuis 20 ans ont perdu près de 90% de leur poids. On est en train de McDonaldiser l'information de Gaspé à Gatineau, ça a même aux heures de nouvelles, comme s'il n'y avait plus de particularité régionale. Et l'impact de ça dans la campagne électorale, c'est qu'on s'intéresse juste aux chefs. On s'intéresse juste aux grands chefs et les candidats dans les régions, patate, ils n'ont aucune espèce d'intérêt pour ça. Fait que ce que ça fait, c'est que 98% de la campagne actuellement, c'est les chefs. Le 2% qui reste essentiellement, c'est les 5-6 exclus, ceux qui ont été morpionnisés et qui se sont fait exclure de leur parti respectif. Donc, Joe Boitalunge, à Rivière-du-Loup ou dans n'importe quelle circonscription au Québec ou au Canada, je génère absolument aucune espèce d'intérêt pour le monde. Et encore une fois, les gens qui nous écoutent pensent que si t'es pas dans le Kodak, t'existes pas. Et c'est un peu ça. Donc, c'est un drame qu'on vit campagne après campagne. Les gens, les candidats régionaux disparaissent. Tout ce qui leur reste, c'est des poignées de main, des pancartes sur les poteaux,
Les soupers
la bonne
spaghettis,
vieille
puis
méthode.
encore. Ouais, mais c'est compliqué, ça. Puis c'est vrai que la politique en souffre beaucoup. Puis je veux dire, avec tout ce qui est en train de changer, il n'y a pas nécessairement le député de tel endroit, Rivière-du-Loup, qui est sur les réseaux sociaux, qui va essayer de faire son chemin. Aussi difficile soit-il que Manon au salon de coiffure, quand il y en a 34 autour
Ouais.
d'elle, ça a tellement changé. Puis ça doit changer votre métier aussi.
Ah oui, ben, ça change notre façon de voir, d'observer et également de faire, par exemple, l'interrelation entre le média traditionnel et les réseaux sociaux. Parce que c'est sûr que Madame Robitaille de Trois-Rivières qui publie un message sur Facebook, ça n'a pas le même impact qu'un article dans la presse. Fait qu'on ne peut pas mettre l'un à côté de l'autre. Cependant, c'est sûr que les réseaux sociaux ont une influence sur le média traditionnel et vice-versa. Lorsque RDI et LCN deviennent débiles, dans les réseaux sociaux, on va devenir collectivement débiles. Et lorsque les réseaux sociaux deviennent débiles, les médias traditionnels ensuite vont accorder jusqu'à 13 fois plus d'attention parce que les réseaux sociaux sont devenus fous. Donc, c'est un peu comme, je ne sais pas s'il y a des gens qui se vont se souvenir de la théorie de la saucisse high grade, plus on en mange, plus elle est fraîche, plus elle est fraîche, plus on en mange. C'est un peu la même chose, c'est que dans les réseaux sociaux, plus on en parle, plus les réseaux traditionnels vont en parler et vice-versa. Donc, il y a un phénomène d'enflure qui se crée et qui se génère l'un et l'autre. Et ça, on suit ça de près parce qu'à un moment donné, ça crée des grosses balloons médiatiques qui ont une proportion démesurée dans des campagnes électorales. Ou encore, tiens, je te donne un exemple, dans la période du dîner de cons. La période du dîner de cons, moi j'appelle ça comme ça parce que c'est tout le temps dans des périodes où tous les médias sont là, mais l'actualité n'est pas revenue encore. Exemple, au retour des fêtes au mois de janvier, c'est pas pour rien qu'on parle autant du bye-bye pendant 2 semaines, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'actualité. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a bien des années, à un moment donné, il y a des oiseaux qui mouraient. Là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, c'est Gérard Depardieu qui était devenu russe puis qui s'était mis à faire des conneries. Il y a tout le temps quelqu'un qui devient le compte-service. Parce que tous les médias sont là, tout le monde gratte, se trouver de la nouvelle,
Ça prend quelque
traiter
chose.
de l'information,
Ouais.
mais il n'y a rien. On dirait que même les bandits sont en vacances dans ce temps-là. Et on voit ça au début de l'été, on voit ça au retour des fêtes et également au congé de Pâques, ce qu'on va connaître dans quelques jours.
Jean-François Dumas d'Influence Communication, si on prend les différents chefs de parti au fédéral, est-ce qu'on est capable d'évaluer le poids média de chacun d'eux? Puis est-ce qu'il y en a qui sont privilégiés au détriment de d'autres?
Et ça, c'est fascinant parce que, en théorie, tout le monde a déjà entendu ça, en théorie, les médias doivent donner un traitement équitable, tant sur le plan qualitatif, pas qualitatif, mais quantitatif, à l'ensemble des candidats. Autrement dit, tout le monde devrait avoir à peu près la même place dans les médias en termes de couverture médiatique. Puis c'est pas vrai pantoute. C'est pas ça, mais pas pantoute. Au Québec, depuis
Ouais.
le début de la campagne électorale, 48% de l'espace accordé à un chef, c'est Mark Carney. Pierre Poilievre a 28 %. Donc, Très, 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 très loin derrière. Autrement dit, au Québec, dans les médias, on n'en a que pour Carney.
Mais est-ce qu'ils ont leur responsabilité là-dedans? Parce qu'il faut qu'ils en créent, entre parenthèses, de la nouvelle, eux aussi, s'ils veulent l'être. En même temps, les couvertures, effectivement, sont pas toujours équitables. Et il est où le ratio?
Bien, en fait, ton point est très pertinent parce que quand tu prends quelqu'un comme Poilievre qui a décidé de mettre dehors les journalistes de son autobus en disant « organisez-vous tout seul », c'est sûr que ça limite un peu le rayonnement médiatique et ça aide pas bien ben les relations avec les médias non plus. Fait que ça, c'est un facteur, c'est un élément important. Sauf que, en quelque part, il en demeure pas moins que, indépendamment que les journalistes aient pas d'autobus ou qu'il y ait un autobus, il faut quand même qu'ils couvrent la campagne électorale et il y a un décalage extrêmement important. Et ce décalage-là n'est pas aussi important au Canada anglais. Pierre Poilievre est beaucoup plus médiatisé, toute proportion gardée, ailleurs au pays qu'au Québec. Donc, on accorde. Carney est surmédiatisé, toute proportion gardée, si on se compare avec le reste du pays. Et l'autre observation qui me jette à terre, c'est la disparition progressive de Yves-François Blanchet.
Ouais.
Qui arrive, depuis le début de la campagne, il est à 10,76% en termes d'espace média comparativement au chef. Et il n'y a même pas un point de pourcentage qui le sépare de Jack Meesing.
Au Québec, ça. Oui, puis habituellement, c'est la place où ils doivent se prouver parce que c'est comme ça qu'ils sont capables d'être encore au fédéral.
Exactement. Et l'autre, ce à quoi ça me fait penser, c'est les dernières campagnes de Gilles Duceppe. Parce que le même principe s'applique à tout le monde. Si tu veux te faire élire, il faut que tu sois dans le Kodak. Et Gilles Duceppe, il y avait comme un phénomène d'usure médiatique. Les dernières campagnes, quand il était à la tête du Bloc, progressivement, on a vu un affaiblissement de son espace média progressif, mais qui devenait de plus en plus important. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Yves-François Blanchette jusqu'à maintenant en termes de volume de couverture. Je ne parle pas de stratégie de communication, juste le volume de couverture. Ce n'est pas une bonne campagne politique, une bonne campagne électorale pour Yves-François Blanchette. Il n'est pas là, il n'est pas dans le Kodak et ça ne lui servira pas.
Puis si on prend les différences entre le traitement des nouvelles au Canada versus au Québec, prenons exemple la guerre commerciale. Est-ce que c'est traité avec autant de foi qu'au Québec versus le Canada?
Ça se ressemble beaucoup, je te dirais. Les différences, essentiellement depuis le début de la campagne, c'est qu'ailleurs au Canada, quand on analyse l'ensemble des sujets à tous les jours, on donne beaucoup plus de place à Pierre Poilievre que ce qu'on fait au Québec. La guerre commerciale, c'est le sujet numéro un. Donald Trump, sans surprise, pourrait gagner. On pourrait arrêter l'année aujourd'hui et il est comme deux fois et demi plus médiatisé que son plus proche poursuivant. C'est l'individu dont on a le plus parlé. Et le plus drôle, c'est que dans le cas de Trump, et ça, c'est quelque chose qui me fait penser aux Canadiens. Tu sais, dans le cas du Canadien, plus de 90% de ce qu'on dit sur le Canadien, c'est pas de la nouvelle, c'est du small talk. C'est « Ouais, moi, je pense qu'il devrait jouer sur le troisième trio. Lui, il est pas bon, on devrait plutôt l'échanger. » Tu sais, c'est pas de la nouvelle, c'est du gossip, c'est de la balloune. Bien, ce qu'on dit beaucoup sur Trump, c'est la même chose. C'est pas vraiment de la nouvelle, c'est qu'on exprime beaucoup d'opinions sur lui, beaucoup d'impressions, il y a beaucoup de peur.
Des frustrations.
Frustration. Ouais. On aime le détester ou on déteste l'aimer, mais d'une façon ou d'une autre, il laisse personne indifférent. Et Trump, ça, on le voit aussi ailleurs au pays. C'est pas juste propre au Québec. Je pense qu'unanimement, il n'est pas très populaire au Canada.
Quand je lis un peu les journaux canadiens, je m'aperçois qu'il y a des guerres qui peuvent se faire et qui ne parviennent pas aux frontières du Québec. Entre autres, le petit conflit qui perdure entre Daniel Smith et Mark Carney. On en parle au Canada, mais au Québec, il n'y a personne qui a parlé de ça. Pourquoi? C'est parce qu'on juge qu'au Québec, il n'y a personne qui va s'intéresser à cette guéguerre-là?
Parce que je pense, puis là, je fais de la pop psycho à 50 cents, mais je pense que dans l'esprit des gens, d'abord, les médias ont peur d'ennuyer les gens. Les médias, l'ensemble des médias, Yannick, on est très, 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 on joue très fessier. On a peur que ça soit plate. C'est pas pour rien que, là, on va tomber dans la saison de l'impôt prochainement. Et depuis à peu près, il y a 20, 25, 30 ans, à cette période-ci d'année, à tous les jours, il y avait du monde qui venait nous expliquer comment fourrer l'impôt. Comment cette année, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les nouveaux trucs pour sauver de l'impôt, puis il faut jouer un tour au ministère du Revenu. Il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui. On a tellement peur d'ennuyer les gens qu'on n'en parle plus. Il y a des sujets qui sont moins populaires. L'histoire de Carney avec Daniel Smith, c'est un peu la même chose. C'est comme si c'est loin, ça nous concerne moins. C'est comme dans un... Souvent, même les nouvelles ailleurs au pays, au Québec, ce sont des nouvelles qu'on traite quasiment sur le même pied que des nouvelles internationales. Ce sont des nouvelles qui sont loin, qui nous concerne moins. Ça, c'est le jugement des médias. Et parce que les médias en parlent moins, les gens ils ont dit ça n'existe pas. Parce que monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute à midi, là, on pense tous la même chose. À tort, mais on pense tous la même chose. On croit que l'importance de n'importe quel phénomène de société est directement proportionnelle à sa médiatisation. Autrement dit, ce que sur la une, Journal de Québec, c'est bien plus important que ce qui est à la fin. Puis si c'est pas dans le journal, il n'y en a pas de nouvelles, il n'y a pas d'enjeu. On croit ça à tort, mais on pense ça. Par conséquent, quand il y a des sujets, il y a des nouvelles dont on ne parle pas, comme par exemple la pauvreté, les aînés, la violence chez les jeunes, les vieux qui meurent dans les CHSLD mal climatisés, on n'en parle plus de ça, ça n'intéresse plus personne. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas de problème parce qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est un des problèmes. Dans la campagne électorale, il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont évincés. Et le Québec, nous, on compare au quotidien. Et ça me fascine. On compare le Québec avec le reste du Canada dans la campagne électorale. Puis on découvre que on a la plupart du temps, presque à tous les jours, on n'a pas du tout les mêmes intérêts. On ne parle pas partout des mêmes affaires.
Tu sais, exemple, au Canada, on a parlé énormément de Stephen Harper dans les derniers jours au Québec. On en a parlé très peu. J'ai entendu parler de Stephen Harper à Radio-Canada puis à cette antenne-ci. Là. Mais sinon, au Québec, on en parle très peu. Tandis qu'au Canada, Stephen Harper a été sur toutes les lèvres la semaine dernière.
Et Pierre Poilievre a essayé au début de la campagne, il a slacké ça, mais il a essayé une vieille stratégie de Stephen Harper, vieille stratégie de communication. Dans les dernières campagnes électorales de Harper, ce qu'il faisait, c'est que le matin, il faisait une sortie publique et il faisait une déclaration qui brassait tout le monde. Et tout le monde était un peu forcé à réagir le reste de la journée. Autrement dit, il prenait le contrôle, en mauvais français, il prenait le contrôle de l'agenda médiatique, il prenait le contrôle de ce qui allait se passer en faisant une déclaration qui faisait réagir tout le monde. On a déjà vu d'autres politiciens avec moins de succès qui ont essayé la même chose. Mais Poilievre, au début de la campagne, faisait un peu la même chose. Le matin, il faisait une sortie, il lançait une balloune, forçait les autres à réagir. Mais on dirait que c'est un peu essoufflé ou encore l'absence des médias a fait en sorte qu'on accorde moins d'attention à ses déclarations et par conséquent, ben, sa stratégie ne marche pas.
Jean-François Dumas, bon, je sais que tu as eu des commandes là, de la part de certains partis politiques, mais prenons un exemple fictif, si tu veux bien. Est-ce qu'un premier ministre peut avoir accès au service d'un Jean-François Dumas d'Influence Communication qui va lui permettre de faire une tournée de l'actualité extrêmement rapide? C'est-à-dire que tu vas lui donner toutes les nouvelles qui sont importantes pour lui-même. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ça doit être un processus assez complexe de le faire.
Ben, on fait déjà, je te dirais, depuis de nombreuses années, on fait déjà, c'est nous qui préparons l'espèce de cahier de bréfage médiatique, donc la revue de presse du premier ministre tous les matins. Donc, quand il se lève le matin, il y a une équipe travaillée là-dessus. Toute l'Assemblée nationale reçoit, pour la préparation de la période des questions, vraiment un document complet tous les matins aussi. Ces gens-là font appel à nous parce qu'ils veulent savoir ce qu'il y a dans les médias. Et lorsqu'il y a une chicane également entre des politiciens, on fait appel à nous. Un moment donné, je vais te raconter une histoire, mais je ne te dirai pas qui. Hein, on va sauvegarder l'anonymat. À un moment donné, il y a deux politiciens qui se chicanent et qui se crient des noms publiquement. Et là, on est dans les... Ça se passe, je ne dirais même pas la région. Mais si les gens sont bien curieux, ils vont finir par trouver c'est qui. Et là, à un moment donné, t'es un menteur, t'es un voleur, t'es un crosseur, t'es un ci, t'es un ça, puis à un moment donné, ils se poursuivent et l'un et l'autre. Et là, nous, un des deux politiciens nous donne le mandat de déterminer c'est qui a commencé à chicaner.
À vous? C'est qui a dit la première insulte? Hey, franchement.
Ben oui, c'est important de savoir qui a commencé.
Il va falloir faire rouler ça dans la presse.
Je le fais avec mes gars, moi. Qui a commencé à chicaner? Puis les deux se pointent du doigt.
C'est exactement ça, parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient déterminer dans le cadre de leur jugement puis de leur poursuite, c'était de la faute à qui cette chicane-là. Alors, je me souviens, on a fait une arborescence sur un mur dans le bureau.